Imaginons un instant une préparation culinaire totalement impossible. Genre, une fois la pâte dans le four, la moitié décide spontanément de se retransformer en farine et en œufs crus.
Ah oui, ça ferait un drôle de gâteau, ça. C'est pas l'idéal pour le goûter.
C'est clair. C'est un chaos thermodynamique absolu et pourtant, ce chaos, c'est la réalité quotidienne de la synthèse organique. Aujourd'hui, pour cette nouvelle exploration détaillée, on s'attaque à une vraie montagne. Un empilement de documents de chimie de niveau terminal spécialité.
Et je suis ravie qu'on aborde ça. Parce que le but, c'est pas du tout de relire un manuel poussiéreux, hein. C'est vraiment de comprendre comment on arrive à dompter la matière.
De la paillasse du laboratoire avec les ballons et les tuyaux, jusqu'à la mécanique invisible des atomes. Bon, on va décortiquer tout ça. L'idée, c'est de suivre le véritable parcours du combattant d'une molécule, depuis sa création bouillonnante jusqu'à sa purification.
Tout en passant par les petites ruses, les astuces invisibles qui permettent aux chimistes de forcer un peu les lois de la nature. Parce que c'est un défi intellectuel super stimulant.
Ouais, je suis fasciné par ça. C'est pas juste suivre une recette de cuisine, en fait.
Non, pas du tout. La synthèse organique, c'est vraiment une ingénierie de l'invisible. Et avant même de parler d'électrons ou théorie, le chimiste, il a des problèmes super concrets sur sa paillasse. À notre échelle à nous, quoi.
Genre, comment on chauffe sans tout faire exploser ou tout évaporer? Voilà. Il faut gérer l'énergie qu'on apporte, maîtriser les sous-produits et surtout, le plus important, ne rien perdre en cours de route.
Ce qui nous amène direct à la première étape qu'on voit dans tous ces protocoles. Le fameux, et ça réveille des souvenirs de lycée, le chauffage à reflux.
Ah, le classique. On a nos réactifs, un solvant, parfois un petit catalyseur, et on allume la plaque chauffante.
Sur le papier, on comprend très bien pourquoi on chauffe. C'est de la cinétique de base. Plus il y a d'énergie thermique, plus les molécules s'agitent, elles se rentrent dedans violemment.
Et c'est ces chocs qui permettent de casser les anciennes liaisons pour en fabriquer de nouvelles. C'est indispensable.
Sauf que, si on fait bouillir un liquide dans un ballon ouvert, tout s'évapore. Le solvant part dans la pièce, on respire des trucs pas possibles, et on perd notre matière première. Et c'est exactement là qu'intervient le montage à reflux. C'est une solution purement mécanique à un problème thermodynamique. On va juste poser au-dessus de notre ballon un réfrigérant à eau.
En gros, c'est un peu le principe d'un cycle de l'eau miniature, non? Les vapeurs chaudes, elles montent dans ce tube en verre vertical.
Ouais, c'est ça. Et autour de ce tube central, on fait circuler en permanence de l'eau froide qui vient direct du robinet.
Donc, quand les vapeurs brûlantes percutent cette paroi en verre qui est glacée, elles perdent instantanément leur énergie cinétique. Elles se condensent, redeviennent liquides, et hop, la gravité fait son travail.
Elle retombe directement dans le ballon, ça permet de maintenir le milieu à sa température d'ébullition, vraiment à gros bouillon pendant des heures.
Et ça, sans qu'une seule goutte de matière ne s'échappe. C'est quand même brillante simplicité.
C'est le mécanisme parfait. Le reflux concilie le besoin de chauffer très fort avec la nécessité absolue de garder ses réactifs. Mais bon, une fois que la cuisson est finie, le travail est loin d'être terminé.
Ah, ça non. On se retrouve avec ce qu'on appelle le mélange réactionnel brut. Et honnêtement, ça ressemble souvent à une soupe pas très appétissante.
Une vraie gadouille chimique. Dedans, il y a la molécule qu'on veut, certes, mais aussi tous les réactifs qui n'ont pas réagi, le solvant, le catalyseur et des tas de sous-produits parasites.
Donc, mission suivante, isoler notre précieuse molécule. Dans les sources, ils parlent beaucoup de l'extraction liquide-liquide avec l'ampoule à décanter.
Oui, on joue sur les différences de solubilité en utilisant deux solvants qui se détestent, en gros, comme l'eau et l'huile. Une phase aqueuse et une phase organique.
Mais il y a un truc expérimental qui m'a vraiment intrigué en lisant les documents. C'est la technique du relargage.
Ah, le relargage! Très malin, ça!
Ils disent qu'on ajoute délibérément de l'eau saturée en sel, du chlorure de sodium, pour forcer la molécule organique à fuir l'eau. Mais mécaniquement, il se passe quoi dans le liquide pour que le sel joue le rôle de videur de boîte de nuit?
Pour comprendre le relargage, il faut zoomer sur les interactions de l'eau. L'eau, c'est un solvant très polaire. Ces molécules se comportent comme des petits aimants.
D'accord.
Donc, quand tu dissous un composé organique dedans, les molécules d'eau viennent l'entourer, elles forment une sorte de bouclier, une sphère d'hydratation.
Elles lui font un câlin collectif, quoi.
Voilà. Sauf que si tu ajoutes massivement du sel, donc des ions sodium et chlorure, ces ions portent des charges électriques super intenses, beaucoup plus fortes que notre molécule organique.
Oh, je vois. C'est une histoire de compétition, en fait. Les molécules d'eau, elles sont complètement attirées par ces ions parce que l'attraction électrostatique est 1000 fois plus intéressante pour elles.
C'est exactement ça. Les molécules d'eau lâchent complètement le composé organique pour s'agglutiner autour du sel.
Du coup,
Notre pauvre molécule se retrouve complètement déshabillée de son bouclier d'eau. Elle n'a plus aucune affinité avec cette eau devenue beaucoup trop salée, et elle est éjectée vers le solvant organique.
C'est de la pure compétition électrostatique. Et parfois, si on a de la chance, et que la molécule est solide à température ambiante, elle va même précipiter, faire des petits cristaux.
Et là, il faut la récupérer. Et les protocoles insistent énormément sur la filtration sous vide, avec le fameux entonnoir Büchner et la trompe à eau.
C'est un gain de temps monumental par rapport à un filtre à café classique, on va dire.
Et c'est clair, au lieu d'attendre bêtement que la gravité fasse tomber le liquide goutte à goutte, on crée un vide d'air en dessous. Et c'est la pression atmosphérique au-dessus qui vient écraser le liquide à travers le filtre.
Ça donne des cristaux beaucoup plus secs et en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Mais, petit bémol, ces cristaux sont encore très bruts.
Ouais, on ne peut pas encore les vendre en pharmacie.
Non, surtout pas. Parce que pendant cette précipitation très rapide, il y a des impuretés qui se sont retrouvées piégées, emmurées vivantes littéralement, à l'intérieur du réseau de notre cristal.
Il faut donc purifier tout ça. Et c'est là qu'intervient la fameuse recristallisation. On le voit bien dans les protocoles de l'aspirine ou de l'acide benzoïque. Et là, on joue encore avec la température.
C'est de la thermodynamique pure. Le principe, c'est de prendre nos cristaux tout sales et de les dissoudre dans le volume vraiment minimum d'un solvant qu'on a porté à ébullition.
Tout redevient liquide. La prison de cristal fond et les impuretés sont libérées dans le solvant. Et ensuite ?
Ensuite, on laisse refroidir. Mais attention, très très lentement. La lenteur, c'est le paramètre critique.
C'est pour leur laisser le temps de bien se ranger ?
Exactement. En refroidissant lentement, les molécules de notre produit cible vont s'organiser selon la structure la plus stable possible. Un réseau cristallin absolument parfait.
Et comme les molécules d'impureté n'ont pas la bonne forme géométrique, elles n'arrivent pas à s'emboîter dans ce mur en construction. Elles sont exclues et restent dissoutes dans le liquide froid. On filtre un coup et bim, on a un produit super pur.
Voilà, c'est magique. Enfin, non, c'est de la chimie. Mais une fois qu'on a notre belle poudre blanche, il reste une étape cruciale. Prouver qu'on a bien fabriqué la bonne molécule.
Ah oui, l'analyse. Alors comment on vérifie que notre gâteau chimique est le bon ?
Si c'est un solide, l'outil roi, c'est le banquefleur. C'est une longue plaque métallique qui est chauffée avec un gradient de température super précis. Un bout est tiède, l'autre est brûlant.
Et on fait glisser un tout petit peu de notre poudre le long de cette plaque jusqu'à ce qu'elle fonde, c'est ça ?
C'est ça. On regarde exactement à quelle température le solide devient liquide.
Et si la température mesurée correspond à la valeur qu'on trouve dans les bouquins de référence, c'est bon signe. Mais d'ailleurs, s'il reste des impuretés, ça fausse le résultat, non ?
Ah, ça se voit tout de suite. Une impureté, ça perturbe l'organisation parfaite du cristal dont on parlait. Donc le réseau est plus fragile. Il faut beaucoup moins d'énergie, moins de chaleur, pour le casser.
Donc la poudre fondra à une température plus basse que prévu.
Plus basse. Et surtout, ça fondra pas d'un coup sec. Le point de fusion sera étalé sur 2 ou 3 degrés. C'est un test de pureté redoutable.
C'est fou. Et on couple souvent ça avec une chromatographie sur couche mince, la fameuse CCM. On fait grimper la molécule sur une plaque avec un solvant. On passe ça sous une lampe UV.
Et si notre tache arrive exactement à la même hauteur que le produit de référence pur, on a une double confirmation. La synthèse est un succès.
Franchement, tout ce travail de paillasse, c'est passionnant. On vient de voir comment le chimiste orchestre tout ça. Mais pour moi, c'est là que ça devient vraiment, mais alors vraiment intéressant.
On va plonger dans le pourquoi.
Exactement. Pourquoi ces molécules décident de réagir entre elles quand on les chauffe ? Pour comprendre, il faut qu'on réduise notre taille 1 million de fois et qu'on aille observer la chorégraphie des électrons.
Et là, la clé de voûte de toute la réactivité, le concept absolu dans nos documents, c'est l'électronégativité. On la note souvent avec la lettre grecque, qui ?
L'électronégativité, si j'ai bien compris, c'est un peu la force d'attraction d'un atome. Sa capacité, quand il est lié à un autre, à tirer vers lui le nuage d'électrons qui sont censés partager.
C'est une excellente définition. Prenons une vision super classique en chimie organique. Un atome de carbone lié à un atome d'oxygène. L'oxygène a un noyau qui attire beaucoup, beaucoup plus les électrons que le carbone.
Du coup, le partage, c'est une arnaque. C'est pas du tout du 50-50. Le nuage d'électrons se déforme et s'agglutine du côté de l'oxygène.
Ce qui lui donne un excès de charge négative, c'est ce qu'on appelle une charge partielle, qu'on note delta moins.
Et le carbone, lui, il se fait dépouiller. Son nuage s'éloigne, il se retrouve à moitié à poil avec un déficit d'électrons, donc une charge partielle positive, le fameux delta plus.
La liaison est donc polarisée. Et cette asymétrie de charge électrique, c'est vraiment l'architecture de base de toute la réactivité organique. C'est ce qui crée les sites donneurs et les sites accepteurs d'électrons.
Concrètement, un site donneur, c'est le coin riche de la molécule. une zone de surpopulation électronique, genre l'oxygène avec ses doublets non liants. Et un doublet non liant, c'est pas juste deux petits points sur un schéma de Lewis.
Ah non, c'est bien réel.
C'est deux électrons qui vivent dans une orbitale spatiale. C'est comme un gros lobe de charge négative qui pointe vers l'extérieur de l'atome, qui n'attend qu'une chose, interagir.
C'est l'image physique exacte.
Et à l'inverse, le site accepteur, c'est la zone en galère d'électrons. Ça peut être notre atome de carbone avec son delta plus, ou parfois un atome qui a carrément une lacune électronique.
Une chambre vide dans son hôtel orbital, quoi.
Exactement. Une place disponible pour accueillir de nouveaux locataires. Donc, une réaction chimique, c'est tout simplement la rencontre entre ces deux mondes. C'est Robin des Bois, en fait. La zone très riche en électrons, le site donneur, vient physiquement donner son excès à la zone très pauvre, le site accepteur.
J'aime beaucoup l'analogie. Les nuages électroniques viennent se chevaucher, fusionner, pour créer une toute nouvelle liaison covalente.
Et pour cartographier cette redistribution des richesses, les chimistes utilisent des flèches courbes. C'est simplement la trajectoire de l'or de Robin des Bois, non?
C'est le flux de la densité électronique. La flèche courbe, elle part toujours de la richesse, donc du centre, du site donneur, et elle pointe exactement vers l'atome accepteur. C'est un code très strict.
Et en lisant ces flèches, étape par étape, on regarde le film couplet de la réaction. C'est le fameux mécanisme réactionnel. D'ailleurs, un catalyseur peut totalement modifier ce cheminement, rajouter des étapes, sans changer le bilan final.
Oui, le catalyseur offre une route alternative, souvent plus rapide, mais le point de départ et d'arrivée restent les mêmes.
Mais attendez, il y a un truc qui cloche dans tout ça. Si l'oxygène tire si fort et que les électrons veulent tellement combler les lacunes, pourquoi la réaction ne se fait pas à 100% à la seconde où on mélange les trucs? Qu'est-ce qui les retient?
Ce qui est fascinant ici, c'est que la nature adore le compromis. C'est là qu'intervient la notion d'équilibre chimique.
Parce que dans les docs, on voit souvent qu'à la fin de l'expérience, il reste plein de réactifs de départ. C'est super frustrant.
À notre échelle, quand on regarde le ballon, on se dit « Tiens, ça y est, c'est fini, les couleurs ne changent plus ». Mais à l'échelle microscopique, c'est un chaos perpétuel. La réaction ne s'arrête jamais.
Elle tourne dans les deux sens en même temps.
Exactement. Les réactifs forment des produits et à la même vitesse, les produits se recassent la figure pour redonner les réactifs. C'est un équilibre dynamique.
Je vois. Si on repense à la théorie des chocs, au début, il n'y a que des réactifs. Ils ont de la place, ils se percutent, paf, ils font des produits. Mais plus le temps passe, plus la soupe devient bondée de molécules de produits.
Et ces produits finissent par se rentrer dedans eux-mêmes.
Voilà, c'est l'embouteillage moléculaire. Et si deux molécules de produits se percutent super fort sous le bon angle, l'énergie du choc brise leur liaison et retour à la case départ.
C'est une guerre de tranchées. Et pour arbitrer ce bras de fer, on a deux outils mathématiques. Le quotient de réaction, noté QR, et la constante d'équilibre, K.
Alors, le QR, pour faire simple, c'est la photo du système à la seconde T. C'est une fraction, la quantité de produits divisée par la quantité de réactifs. Plus la réaction avance, plus on a de produits, plus ce QR augmente.
Tandis que K, c'est la destination finale. C'est la valeur imposée par la nature, par la thermodynamique, pour une température donnée. Et la règle, elle est absolue. Le système ne se stabilisera que lorsque QR sera exactement égal à K.
Ah, ça explique tout. Donc, si je prends une photo et que mon QR est plus petit que K, ça veut dire qu'il n'y a pas encore assez de produits pour satisfaire la nature. Donc, le système est forcé d'avancer vers la droite.
C'est ça. Et à l'inverse, si par un phénomène extérieur, tu te retrouves avec un QR supérieur à K, le système va paniquer et faire marche arrière. Il va détruire ses propres produits pour reformer des réactifs et refaire chuter QR.
C'est fou. Et c'est cette loi inébranlable qui ruine souvent le rendement des chimistes. Le fameux rendement, ce rapport entre ce qu'on obtient en vrai et le maximum théorique. À cause de cet équilibre, bah on plafonne souvent à 60 ou 70%, même si on chauffe pendant 3 jours.
C'est le mur de la thermodynamique, mais les chimistes sont têtus.
Très têtus, hein. Puisque le système veut à tout prix équilibrer QR et K, on peut le hacker, non? Si QR, c'est les produits sur les réactifs. Imaginons que j'installe un piège qui aspire le produit au fur et à mesure qu'il se forme.
Comme un appareil de Dean Stark pour piéger l'eau, par exemple?
Voilà. Si je retire le produit de la marmite en temps réel, sa quantité dans la fraction reste proche de zéro, donc mon QR s'effondre.
C'est un raisonnement impeccable. C'est le fameux principe de Le Chatelier. Le système va voir que QR est minuscule, très loin de K, donc il va s'emballer et tourner à plein régime pour fabriquer du produit, sans jamais réussir à atteindre l'équilibre vu que tu le retires en permanence.
C'est du piratage pur et simple.
Et on peut faire l'inverse aussi. Introduire un réactif pas cher en quantité industrielle, ça rend le dénominateur de la fraction immense, ça maintient QR très bas et ça force la réaction à consommer la moindre goutte du réactif qui coûte une fortune.
C'est ultra courant dans l'industrie. C'est de l'optimisation intelligente. Mais parfois, le problème, c'est pas juste le rendement, c'est la pagaille liée aux molécules elles-mêmes. Ah oui, les molécules polyfonctionnelles, celles qui ont plusieurs bras, plusieurs sites donneurs et accepteurs. C'est la recette du désastre si on fait pas gaffe.
Prenons l'exemple des dipeptides, abordés dans les sources. On veut fabriquer du gliala, donc lier une molécule de glycine avec une d'alanine. Sauf que ce sont deux acides aminés.
Donc, elles ont chacune une fonction amine, qui est un super donneur, et une fonction acide carboxylique, qui est un super accepteur. Si on les jette ensemble dans un ballon et qu'on chauffe...
C'est le chaos absolu. L'amine de la glycine peut attaquer l'acide de l'alanine, ce qu'on veut, mais elle peut aussi très bien attaquer l'acide d'une autre glycine, ou l'alanine peut attaquer l'alanine.
Bref, on obtient une soupe de gli-ala, de ala-gli, de gli-gli, de ala-ala. Sélectivité zéro.
Pour éviter ça, les chimistes utilisent une stratégie de protection. Et là, j'ai une analogie.
Vas-y, je t'écoute. C'est comme quand on veut peindre le mur de son salon. On ne jette pas juste le seau de peinture. On prend du ruban adhésif, de masquage, et on en met sur les plinthes, sur les encadrements de fenêtres, sur les interrupteurs. On masque ce qu'on ne veut pas toucher.
C'est exactement ça. Si l'on relie cela à une vision plus globale de la molécule, on va accrocher un groupement chimique protecteur sur la fonction qu'on veut cacher.
On lui met une fausse identité. Si la fonction amine est trop réactive, on la déguise temporairement.
On la transforme, par exemple, pour qu'elle devienne un amide. Ce groupement protecteur agit comme un gros bouclier physique, un encombrement stérique, qui empêche la réaction de se faire à cet endroit.
Et une fois que tous nos interrupteurs sont scotchés, on peut déclencher la réaction sereinement. Seules les zones qu'on a laissées libres vont pouvoir se rencontrer. Et paf, on obtient notre gli-ala parfait.
Et bien sûr, une fois la peinture sèche, on n'oublie pas d'enlever le scotch. C'est l'étape de déprotection, pour restituer les fonctions de départ.
Sauf que, en lisant l'exercice sur la synthèse de la méthanképhaline, un truc antidouleur fabriqué avec 5 acides aminés, on se rend compte du coût de cette orfèvrerie de réaction.
Et imagine pour une chaîne de 5 blocs, on arrive à des dizaines d'étapes. Et à chaque étape, il faut des solvants, du chauffage, des purifications, du temps.
Ça consomme une énergie folle et ça génère des litres de déchets toxiques pour récolter 3 grammes de produits. Le rendement global s'effondre avec cette inflation d'étapes.
C'est le grand paradoxe de notre chimie classique. Elle est théoriquement toute puissante, on peut tout faire, mais matériellement, c'est lourd, très lourd. Et c'est pour ça que les documents se terminent sur un concept vital, la chimie verte.
Surtout le principe d'économie d'atomes.
Exactement. Le but, c'est de concevoir des voies de synthèse où la majorité des atomes des réactifs finissent vraiment dans la molécule cible et pas à la poubelle sous forme de sous-produits.
Et donc, l'idéal absolu de la chimie verte, c'est de se débarrasser complètement de ces fameuses étapes de protection et des protections qui sont un gouffre. Et on évoque une solution incroyable, la biocatalyse, l'utilisation d'enzymes.
L'approche enzymatique, c'est vraiment le futur. Une enzyme, c'est un catalyseur naturel. C'est une grosse protéine avec une structure spatiale en 3D d'une précision hallucinante.
Elle agit un peu comme une pince nanométrique, non ?
C'est ça. Elle est tellement spécifique qu'elle ne saisit la molécule cible que dans une seule orientation. Avec elle, pas besoin de mettre du scotch partout, pas besoin de groupement protecteur.
Le videur enzymatique fait le tri. Il ignore totalement les autres fonctions réactives de la molécule et n'assemble que ce qu'il doit assembler. C'est d'une propreté absolue.
Ça permet de travailler à température ambiante, dans l'eau et avec très peu de déchets.